l'Ordre de Malte, près de 1000 ans au service de nos seigneurs les malades. Comme chaque mois, nous retrouvons Philippe Rideau, bonjour.
Bonjour Mickaël et bonjour chers auditeurs.
Pour cette dernière chronique avant l'été, je crois que vous avez choisi un sujet grave à traiter aujourd'hui. Quel est-il ?
Eh bien, nous voilà déjà en été. Bientôt les feux de la Saint-Jean et je m'étais dit, en pensant à cette dernière chronique avant les vacances, que la légèreté, la presque déjà insouciance estivale, le bleu de l'océan et du ciel, toutes ces belles et bonnes choses que l'été peut apporter, devaient l'emporter, imprégner mon propos pour vous. Mais voilà qu'une manchette de presse est venue réellement me percuter le 17 juin dernier. Je cite « En France, tout le monde s'en fout ». De quoi pouvait-il s'agir ? Eh bien, c'est de cela dont je souhaite vous parler, non pas avec légèreté, mais au contraire, avec gravité, avec souffrance aussi, car il s'agit de nos frères et sœurs dans le Christ, de ceux-là même qui attendent prières et actions, comme le souhaite ardemment l'Ordre de Malte, à la rencontre non seulement des plus pauvres, des plus démunis, mais aussi de ceux qui risquent leur vie au nom de leur foi. Je veux parler des chrétiens persécutés. Revenons sur les faits. Vous connaissez sûrement le Nigeria, ce pays d'Afrique de l'Ouest de plus de 235 millions d'habitants, de 950 000 km², situé au bord du golfe de Guinée, entre le Bénin, le Cameroun, le Niger et le Tchad, le géant de l'Afrique, comme on dit, le deuxième PIB après l'Afrique du Sud, devant l'Égypte, mais aussi le plus dangereux, écartelé entre le christianisme au sud, évangélique et catholique, et l'islam au nord, qui représente 60% de la population totale. Tout le monde a entendu parler de la secte islamiste Boko Haram, qui a fait des milliers de morts depuis 2009. Eh bien, le Nigeria, si terriblement craint par ses voisins, et qui fournit par ailleurs le principal apport d'immigration en Europe, a été le théâtre d'un nouveau massacre de masse dans la nuit du 13 au 14 juin à Yelenvate, dans l'état de Benko. Des assaillants ont attaqué le marché où s'étaient réfugiés des centaines de familles déplacées. Et en hurlant à Allah Akbar, ils ont massacré plus de 200 personnes, selon la Fondation Justice Développement et Paix du diocèse de Markadi, citée par l'AED, l'aide à l'église en détresse. Ces victimes ont été abattues à l'arme à feu, à la machette ou brûlées vives. Le père Ukuma Jonathan Angiambi, curé local, a témoigné avoir vu des corps calcinés, dont ceux d'enfants et de nourrissons, après cette attaque sur une population chrétienne déjà éprouvée par plusieurs semaines de violences semblables dans la région. Et face à cela, le silence assourdissant de la plupart des médias prétendus importants et de la quasi-totalité de la classe politique. Face à l'ampleur du drame, l'absence de réaction officielle interroge. Seul le Saint-Père, le pape Léon XIV, a appelé à prier pour eux lors de l'Angélus du 15 juin dernier. Faut-il rappeler aussi, chers amis, les derniers massacres des chrétiens de Syrie lors de la Pentecôte et dernièrement encore un attentat suicide contre une église de Damas, l'église Saint-Élie, qui a fait au moins 40 morts suite à des tirs perpétrés par un kamikaze de l'État islamique. Et l'on ose parler d'islamisme modéré en recevant le nouveau chef d'État de la Syrie à Paris. Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce relativisme ? Cette gêne de certaines autorités civiles et religieuses vis-à-vis de nos frères persécutés ? Parce que chrétiens ? Parce que africains ? Parce que orientaux ? Parce que asiatiques ? Parce que français, hélas, de plus en plus ? De quoi les autorités ont-elles peur ? Hors des critères de la bien-pensance, de la bonne conscience gratuite, de la résistance de salon, il est tellement plus confortable de ne rien dire et même de ne plus prier pour eux dans certaines de nos assemblées. En France, tout le monde, ou presque, s'en fout. En France même, où près de 1000 actes antichrétiens ont été recensés en 2023, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, 90% de ces actes visant nos églises et nos cimetières, chaque année davantage. en France même, où s'affirmer chrétien devient de plus en plus un véritable acte de foi. Prenons exemple sur les pèlerins de Chartres, sur les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, sur tous les nouveaux baptisés de Pâques qui prennent avec allégresse le chemin du Christ. Eux nous entraînent. Tenons-nous informés pour mieux prier pour eux de la situation des chrétiens dans le monde, comme nous avons pu le faire grâce à la remarquable exposition réalisée il y a quelques semaines dans notre cathédrale Sainte-Marie de Bayonne par l'aide à l'Église en détresse. Soyons sensibles, chers amis, dans notre action au quotidien, aux formes sournoises de persécution que sont la discrimination à l'emploi, l'éducation imposée à l'école, les pseudo-impératifs de santé, les mortifères combats contre la vie. Soyons sensibles aux lois anti-conversion, à l'interdiction de cultes prônés par ceux-là même qui revendiquent la place première de leur religion ou de leur intégrisme laïque. Souvenons-nous avec nos frères dans le monde qu'en Iran, les églises de maison sont surveillées comme en Chine communiste. Ce qui se passe au Nigeria, plus qu'un affrontement ethnique, est un long génocide dont trop de politiques et médias sont complices par leur silence. Oui, osons le courage de la vérité. Alors me direz-vous, chers amis et auditeurs, voilà des propos bien sombres pour une dernière chronique avant l'été. Et vous avez raison. Alors, osons l'espérance, celle du rayon de lumière sous la porte que nous sommes capables de voir. Ce rayon qui nous permet de garder les yeux ouverts dans l'obscurité, le cœur disponible, l'intelligence en éveil. Ce rayon de lumière, il brillera plus particulièrement ce samedi 28 juin, jour d'ordination sacerdotale, et ce dimanche 29 juin, jour d'ordination diaconale en vue du sacerdoce. Réjouissons-nous vraiment. Que tous les futurs prêtres soient assurés de notre prière fervente, qu'ils soient multipliés dans notre Église de France si dépourvue. Et puis, ce rayon de lumière, je vous propose, en conclusion, chers amis, de le voir chaque jour, de le goûter tout au long de vos vacances sur votre chemin, qu'il soit familial, amical. Ce rayon, il s'appelle Sainte Fleur. Cette religieuse du XIVe siècle, dont on fait mémoire le 12 juin, cette religieuse vénérée par l'ordre de Malte, qui a donné son nom à la maternité de l'ordre à Madagascar, et dont certaines reliques sont très joliment conservées dans l'église d'Issandolus dans le Lot. Sainte Fleur est connue notamment par le miracle des roses. Sainte Fleur avait en effet pour habitude dans sa communauté de collecter les restes de pain pour les distribuer aux pauvres, et ce malgré l'interdiction de sa supérieure qui craignait une dilapidation du bien commun. Surprise un jour par cette dernière et sommée d'ouvrir son tablier, Fleur vit s'échapper de celui-ci des roses en lieu et place du pain. Sainte Fleur est devenue la patronne de toutes celles qui portent des prénoms de fleurs ou de fruits. Alors, chers amis, quand vous marcherez sur vos chemins d'été, regardez bien la beauté des fleurs. Elle est infinie dans notre si beau Pays basque, comme partout en France. Pensez à Sainte Fleur pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés. Offrez-leur le bouquet de vos prières. Personne ne peut voler notre trésor. Bel été à tous, que Sainte Fleur vous accompagne et que Dieu vous garde.
L'Ordre de Malte, près de 1000 ans au service de nos seigneurs les malades. www.ordredemaltefrance.org